Bonjour, vous écoutez La Vie électrique. Aujourd'hui dans La Vie électrique, un épisode un peu spécial puisque c'est un guest slot. On accueille un podcast invité, on en parlait déjà la dernière fois, et la dernière fois on parlait aussi de Lovecraft. Et on parlait donc de cette émission produite par Lizelp dans la série Le Pop Corner, quelques épisodes de l'Écho du Futur, et cet épisode en particulier autour de Lovecraft, avec une voix qui ne devrait pas trop vous dépayser puisqu'il s'agit de la voix de Peggy. Le Pop Corner, donc, c'est un espace d'exploration des formes et des pratiques culturelles qualifiées de populaires, structurées sur le modèle de la série. Il donne à entendre les expériences et les analyses de spécialistes de tous bords, mais aussi celles d'amateurs et d'amatrices curieuses et passionnées. Donc Écho du Futur, la première série d'émissions, elle entend approcher l'abondance de ce genre qui nous occupe ici, la science-fiction. À l'heure d'une pandémie mondialisée, d'une crise climatique durable, les auteurs et autrices et les artistes de science-fiction esquissent des pistes pour des lendemains qui parfois chantent, souvent s'obscurcissent et toujours se transforment. Au menu, prospective critique, réalité alternative, perception élargie et anticipation déroutante. Et donc pour faire suite à notre discussion du mois dernier dans La Vie électrique, on retourne encore une fois sur le cas de Howard Philip Lovecraft, peu commenté, quoique ici quand même un peu, les tendances suprémacistes du maître du fantastique américain traversent pourtant toute son œuvre littéraire, mais qu'en est-il des récentes adaptations télévisuelles? Cette rencontre donc avec Peggy Pierrot, enseignante, activiste et animatrice radio, ici même dans La Vie électrique. Donc voilà, si vous voulez écouter les autres épisodes d'Écho du Futur, vous les retrouverez sur le SoundCloud de Lizelp. C'est parti pour une grosse demi-heure.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le SoundCloud de Lizelp. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Peggy Pierrot. Bonjour Peggy.
Bonjour.
Ça commence bien, je bafouille. Alors Peggy, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, donc je rappelle que tu es enseignante à l'ERG. Tu enseignes notamment la théorie des médias, de la communication. Tu animes également des cours dans le cadre du master en narration spéculative qui porte sur des questions qui touchent au récit, donc à la narration, à la construction des récits, des imaginaires. Alors aujourd'hui, tu viens nous faire une intervention un petit peu particulière. Tu exhumes, on va dire, une figure controversée de la fantasy, de la SF, du fantastique, qui est H.P. Lovecraft. Alors pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, H.P. Lovecraft, c'est donc un auteur de fantasy, de science-fiction,
surtout de fantastique, on va dire, qui est vraiment au cœur des origines de la du fantastique américain, de la peur à l'américaine, avec Poe d'un côté, et puis l'autre côté, on va avoir Howard Philip Lovecraft, et c'est quelqu'un qui est très présent en fait, parce que même si ses écrits, quand il les a publiés, étaient peu lus. Enfin, il est élu d'un groupe d'amateurs qui ont eux-mêmes créé à partir du monde que lui a posé. Alors, je pense à Clark Ashton Smith, Robert Bloch et d'autres. Mais on voit aujourd'hui de nouvelles œuvres sortir avec des références fortes à l'univers de Lovecraft.
C'est ça, c'est son imaginaire qui va infuser aujourd'hui, notamment dans des créations visuelles, donc séries télévisées, films, etc.
On le retrouve aussi dans des bandes dessinées. Alan Moore, il fait référence à plusieurs reprises pour les références grand public. Dans Batman, il y a plein de références à l'univers de Lovecraft. L'Arkham Asylum, c'est Lovecraft, Arkham. C'est une ville de fiction qui vient du monde de Lovecraft. Donc voilà, Lovecraft est très présent. Et pourtant, comme tu disais à l'instant, c'est une figure controversée. Parce que c'était un conservateur suprémaciste qu'on retrouve dans un certain nombre de ses œuvres une dimension raciste et que quelque part, même si certains sont pas d'accord, je pense à Houellebecq qui a écrit sur Lovecraft et qui dit que lui il était porté par la rage, non, il était porté par une vision du monde raciste malgré ça, il est toujours présent. Et ce qui m'intéresse de discuter aujourd'hui, c'est un peu qu'est-ce qu'à partir de là, à partir de ce monde particulier, de ces mondes en fait particuliers qu'il a créés, aujourd'hui on peut faire, comment on peut finalement, quelque part, moi ce qui m'intéresse de discuter, c'est comment on peut lire Lovecraft tout en étant noir d'une certaine manière, puisque je suis une grande amatrice de Lovecraft, j'ai joué à l'Appel de Cthulhu, puisqu'il y a des jeux aussi qui sont tirés de cet univers, et pourtant ça pose problème, c'est pas simple, et donc voilà, c'est un peu ce vers quoi... j'ai envie de vous amener aujourd'hui ce type de réflexion sur la question de bah oui, comment on peut réinventer à partir d'une œuvre, comment on peut recevoir une œuvre et en faire autre chose.
Mmh. Oui, parce qu'il est connu pour une écriture très dense, très détaillée. Tu évoquais Cthulhu, qui est peut-être l'œuvre la plus connue de Lovecraft, qui perdure encore aujourd'hui, que l'on retrouve dans des jeux vidéo, dans des récits, dans des séries télévisées, dans d'autres livres, etc. Qui a aussi inspiré beaucoup de récits parallèles, et j'ai l'impression que cette mythologie très dense et très détaillée qu'il a créée autour de ce monstre, de ce personnage en fait des fonds marins, vient occulter quelque part la véritable essence en fait de son être et de son écriture, qui est quand même le rejet de l'autre, on va dire. Bah,
disons que pour moi, c'est parce qu'il était comme il était qu'il a créé ce monde, ces grands anciens, ces extraterrestres, en anglais ces aliens, qui accéléreraient d'une certaine manière le déclin d'une certaine civilisation, une certaine culture blanche. Il se définissait lui-même comme blanc de craie. Donc, il était puritain, il était vraiment attaché à une certaine culture anglo-saxonne. Il avait cette idée que les anglo-saxons étaient menacés, et menacés pas par n'importe qui, ils étaient menacés par les Irlandais. Parce qu'il a, il a une nouvelle, même s'il était en contact avec des gens comme Lord Dunsany, qui ont fait partie de ces gens qui ont fait popularisé et qui ont continué l'œuvre Lovecraftienne. Donc il y a une nouvelle qui s'appelle La Tourbière Hantée, mais qui s'appelle en anglais Moonbog, où alors il décrit les Irlandais comme étant des arriérés finis, etc. C'est l'une des rares nouvelles qui se passe pas aux États-Unis d'ailleurs.
Parce que catholique. En partie,
mais parce que simplement il les voit comme différents de lui, différents de son univers personnel, et il les voit comme des immigrants.
Oui,
et voilà.
C'est ça.
Et donc c'est vraiment aussi cette idée de l'immigration, du mélange qu'on retrouve en fait comme étant une menace dans l'œuvre de Lovecraft et qu'on peut pas dissocier de sa vision du monde.
Ouais.
Et c'est ça que je trouve qui est intéressant, c'est qu'on peut à la fois voir cette dimension raciste dans son travail et se dire qu'est-ce qui est quand même intéressant chez lui. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est un peu comme quand Toni Morrison disait moi je lis Faulkner, mais évidemment chez Faulkner il y a du racisme, mais je vais décider de pas le voir. C'est comment on peut à la fois avoir une forme de double conscience en lisant Lovecraft pour des gens comme moi qui sont des afrodescendants, se dire ok, il y a des choses que je trouve vraiment bien chez Lovecraft, mais quand même ce qui le ressort de son écriture, c'est sa misanthropie, c'est son racisme, c'est son côté puritain, et qu'est-ce que je peux en faire qu'est-ce que je peux faire avec ça, c'est-à-dire essayer finalement l'expérience de lecture de Lovecraft pour un certain nombre de personnes avec des parcours qui font que dans ces personnages, dans les histoires de Lovecraft, il serait plutôt du côté du mal, parce qu'il était antisémite, et ça sent, il était raciste à plein de niveaux. Mais comment on peut se dire, OK, ce sur quoi il joue m'intéresse quand même, parce que je sais très bien que de toute façon, j'évolue dans un monde où je suis aussi considéré un peu comme cet étranger, et que je suis toujours en oscillation à travers ce que Dubois ou Gilroy définissent comme étant cette double conscience, c'est-à-dire un moment où on a tout à fait conscience de qui on est quand on lit Lovecraft, et on décide d'avoir une lecture sélective. On parle souvent du point de vue situé des artistes, des auteurs, mais il y a quelque part aussi un point de vue situé du lecteur, et c'est ça moi qui m'intéresse d'essayer de pointer. Comment on fait pour lire des choses qui nous rejettent finalement, et comment on fait pour justement avoir cette lecture sélective, et puis après peut-être se réapproprier des contenus pour en faire autre chose. Parce que par exemple, donc moi j'ai beaucoup joué à l'Appel de Cthulhu, donc le jeu de rôle, et je ne me rappelle pas une seule fois où en jouant avec mes amis dans les histoires il y avait ce type de racisme. Il y avait de la peur, on dès qu'il y avait quelque chose qui craquait dans la pièce on sursautait, mais le racisme n'y était plus,
était absent, il avait été enlevé.
Et là, ce qui m'intéresse, c'est que autour de Lovecraft, dans le monde de la science-fiction, de la fantasy et du fantastique de la diaspora africaine, il y a des gens qui se posent la question et essayent de dire, OK, on va partir du monde de Lovecraft et essayer d'en faire autre chose. Et ça a commencé déjà avec, en 2011, Kennedy Okorafor, recevant le World Fantasy Award, a dit mais c'est quoi ce buste Lovecraft machin, elle a pété un peu se renseigner, et puis alors ça fait polémique, et puis aujourd'hui le prix qu'on reçoit quand on a le trophée là, c'est plus Lovecraft en fait, et ils vont décider de le faire disparaître. Moi je trouve ça bon. On peut se poser la question de est-ce qu'il fallait le changer ou peut-être signifier les choses, dire peut-être essayer de voir qu'est-ce qui nous fascine encore chez ce type, quoi. Absolument. Pourquoi il est toujours présent malgré tout. Et alors voilà, il y a des gens très variés qui vont faire des références dans cette diaspora, dans ces écrivains et ces auteurs de la diaspora afro-descendante. Ils vont faire référence à Lovecraft, alors de manière très très différente, comme N.K. Jemisin dans son nouveau livre, The City We Became, elle fait référence à Lovecraft, mais moi je vais peut-être un peu plus me concentrer sur des œuvres visuelles, des œuvres vraiment tout public, grand public, qui du coup vont alors à la fois investir un genre qui est pas forcément identifié comme pouvant être justement présent dans ces diasporas, qui est ce genre de l'horreur, de la peur. Alors on a une série Amazon qui me pose beaucoup de problèmes, on y reviendra, qui s'appelle Them.
Oui, absolument.
Il y a eu qui a eu beaucoup de succès, Get Out et Us de Jordan Peele. Jordan Peele, c'est lui qui présente la nouvelle version de la cinquième dimension, puisqu'il y a une série qui a été refaite et dans laquelle justement aussi on va voir que certaines des histoires vont jouer sur la question du racisme et essayer de voir comment on peut se servir de ou transcender un peu la question du racisme à travers des histoires mystérieuses et de peur.
J'ai l'impression en fait que tu le disais, c'est pas étonnant en fait, le racisme naît la plupart du temps en fait de la peur chez Lovecraft et chez les autres. C'est pas étonnant non plus qu'on retrouve aujourd'hui cette mythologie, cet imaginaire, etc. Principalement, j'ai l'impression, dans des œuvres d'horreur ou qui ont pour but en fait d'effrayer, de créer un état nerveux, on va dire. Qu'est-ce que ça dit, ça, aujourd'hui?
Alors là, pour le coup, comme on est vraiment là, pour le coup, aussi du côté anglo-saxon, puisque la plupart des titres que j'évoque, et je pense aussi à la série HBO Lovecraft Country, au film qui se passe, lui, en Angleterre, qui s'appelle His House, de Remy Weeks. Et en fait, je pense que le climat général actuel est propice à la production de films de peur, notamment, justement, dans ces populations minoritaires, parce que le contexte est quand même effrayant. C'est-à-dire que d'un point de vue politique, si on prend l'Amérique de Trump, on prend l'invasion du Capitole, etc., ou même ici, la montée des extrêmes droites en Europe, on est quand même dans un contexte où il y a quand même matière à se dire que il ne s'agit pas que de fiction, mais que la fiction peut être le réceptacle de questionnement sur le monde tel qu'il va, ou plutôt le tel qu'il ne va pas. Et le retour de la science-fiction, de l'intérêt pour la science-fiction, le retour de l'intérêt pour le fantastique ou la fantasy, pour moi, sont de cet ordre-là en grande partie, à part pour les amateurs de tout le temps, mais le fait que ces genres débordent, notamment dans la pop culture, pour moi, sont assez révélateurs de quelque chose, puisque dans les années 60, c'était la peur du communiste. Absolument. Et ça donnait tous ces films avec des ovnis et tous ces livres sur les peurs d'invasion, les peurs de faim. Et donc là, on est aussi dans une période comme ça d'incertitude, et je crois que c'est pas étonnant qu'il y ait ce réinvestissement à la fois des thèmes lovecraftiens, puisque c'est vrai que tout le monde de l'appel de Cthulhu, ça fout vraiment les chocottes. Il y a vraiment des façons de décrire, mais chez lui, mais c'est aussi chez les gens du Lovecraft Club, c'est-à-dire les auteurs qui ont popularisé et écrit après lui, comme Auguste Derleth, Robert Howard, Clark Ashton Smith. On a vraiment quand même cette peur détaillée, cette peur qui est vraiment fine et présente comme ça de manière subreptice, quoi, qui est là, diffuse. Et donc, c'est assez évidemment, c'est intéressant pour des gens qui ont envie de raconter des histoires de s'emparer de cet univers-là et de le transformer.
Et tu dirais que c'est quoi justement le style Lovecraftien?
Alors c'est, je crois quelque chose. Bah, en tout cas, sur cette dimension là de lien avec la question du racisme et de la vision des autres, c'est vraiment la peur du métissage. Le métissage vu comme une abomination, c'est la peur de la dégénérescence, l'idée qu'il y a une pureté derrière, et c'est à partir de là qui va venir nous titiller. Et c'est vraiment profond. Dans son travail, c'est pas quelque chose de surnuméraire, et donc je pense notamment il y a pas mal d'histoires où on se retrouve au fin fond d'une forêt avec des gens dont on comprend que ils se reproduisent entre eux sur des générations. Donc cette idée de la dégénérescence génétique, c'est quelque chose qui est effrayant pour nous, parce qu'on se dit bah voilà, c'est la fin de notre monde, c'est aussi des gens qui sont difformes, etc. Et pour lui, c'est vrai que même dans il a écrit un poème qui est très connu qui s'appelle On the Creation of Niggers, et il décrit les nègres, comme il les appelle, comme étant des êtres difformes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand je lis ça, je sais qu'il ne parle pas de moi. C'est-à-dire que voilà, la lecture sélective, elle permet de se dire ok, on a affaire à quelqu'un qui a une vision du monde, et cette vision du monde, elle génère de la peur qui m'intéresse à certains endroits et qui ne m'intéresse pas à d'autres.
Ouais.
Essayer de répondre peut-être plus à ta question, c'est vrai que même si le racisme est au cœur de l'œuvre de Lovecraft, on retrouve surtout ses visions politiques dans ses correspondances. Hein. Mais il a beaucoup écrit à son club et à d'autres personnes, donc c'est vrai que c'est présent, mais c'est pas présent toujours de manière aussi explicite que dans le poème que j'évoque. Et donc du coup, je crois que vraiment la notion des grands anciens qui seraient des extraterrestres, donc des aliens qui attendent tapis dans l'ombre de faire déchoir la civilisation humaine, c'est à partir de là que lui construit son travail. Et après, son style, il est vraiment, et c'est ça que j'apprécie surtout, c'est justement la façon dont il arrive, en te décrivant des arbres qui bougeraient sans qu'il n'y ait de vent, te faire serrer les fesses et te dire oh là là, il faut que j'allume la lumière. Donc c'est
une écriture du ressenti.
C'est une écriture de ressenti, mais évidemment c'est difficile de séparer cette question du ressenti de comment lui voyait le monde, puisque il est resté reclus. Alors souvent on se dit ah, c'est pas un reclus, mais si, c'était quand même un reclus. Même s'il avait du contact avec beaucoup de gens, il est resté principalement dans sa région d'origine et a vécu un tout petit peu à New York, mais il a détesté. Il s'est marié et sa femme disait que pour lui il avait des crises de colère extrêmement fortes quand il croisait des couples mixtes, par exemple, quand il était à New York. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il n'a pas supporté, il n'est pas resté à New York. Donc,
et puis la ville aussi, peut-être.
La ville, alors il y a la ville, effectivement. Il place tous ses récits en Nouvelle-Angleterre.
Voilà, dans un contexte plutôt rural, retour à la terre.
Plutôt isolé, etc. Donc effectivement, la ville, elle est, et notamment les villes, les villes des grands anciens, donc ces villes souterraines, avec lesquelles sont tapis tous ces monstres qui sont prêts à nous retomber dessus, ce sont des villes, des grandes cités, c'est une vision où par le passé, ces créatures plus grandes que nous, plus fortes que nous, ont construit des villes. Et pas des petites campagnes, non. Ils ont construit des villes, des monuments immenses. Et ça rejoint sa vision du monde général, où la ville est un lieu de perdition, etc. Mais
Non, non, il n'y a pas de souci. Ce dont j'ai eu l'occasion de discuter avec Alain Musset, que tu connais peut-être, qui est géographe, qui a écrit un magnifique bouquin sur les effondrements en fait, tels qu'ils sont présentés dans les imaginaires de science-fiction, dans les récits, etc. Et donc en tant que géographe, il s'est beaucoup intéressé justement au contexte urbain, principalement en Mésoamérique. Donc c'est quelque chose qu'il connaît très bien. Et il montrait très bien à quel point, pour plusieurs auteurs de par le passé, donc là Lovecraft, Barjavel, lui il évoquait Barjavel notamment, la ville était perçue comme comme vraiment l'entité à abattre en quelque sorte, et il prônait, ces auteurs-là, un vrai retour à la nature, non pas dans une comment dire, dans une dynamique progressiste telle qu'on le voit aujourd'hui avec les néo-ruraux, etc., un retour à la nature pour mieux rebondir, mais plutôt comme un besoin de comment dire, de renouer avec ses racines profondes, qui sont aussi les racines finalement de la patrie, etc., etc. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette même idée chez Lovecraft, en fait.
Oui, tout à fait, puisque la ville, et alors c'est pas que la ville, c'est aussi les ports, parce qu'il y a beaucoup d'histoires autour de bateaux qui arrivent, qui apportent ces entités sur elles, ou alors qui viennent de lieux quelque part là-bas en Polynésie. c'est clair que ces points de contact, pour lui, c'est l'horreur, puisque ces points de contact, c'est les lieux où les gens se mélangent.
C'est la mixité. Ouais.
C'est la mixité. Alors vraiment, ça, pour lui, ça va pas. Mmh. Et alors, du coup, qu'est-ce que faire, qu'est-ce que peuvent faire de cet imaginaire-là, qu'est-ce qu'on peut en faire pour en faire autre chose, finalement, hein? Et donc, c'est ce à quoi ont essayé de s'attacher des gens comme Matt Ruff avec Lovecraft Country. Et d'une certaine manière, et là on sort de l'univers Lovecraftien seulement, aussi d'autres auteurs qui investissent le genre du fantastique depuis la science-fiction ou de la fantasy, depuis leur particularité, cette position d'être des autres, mais de devenir du coup auteurs de récits qui vont mettre en scène, justement, qui vont questionner cette place de l'autre, l'alien, de l'étranger, pour en faire autre chose.
Alors ces relectures, ces réutilisations, ces réinterprétations des récits lovecraftiens, on pourrait s'attendre à ce qu'elles aient, ce qu'elles aient un certain recul réflexif, ce qu'elles aient atteint un certain recul réflexif sur l'œuvre d'origine. Pourtant, j'ai l'impression que pas mal d'entre elles échouent à véritablement proposer une lecture critique, finalement, de ce qui est amené dans les œuvres d'origine, encore plus quand il s'agit de séries télévisées ou de films.
Alors, c'est un peu le cas dans Lovecraft Country, sachant que pour partie, ça fonctionne dans la série, hein, et dans le livre. Enfin, plus dans le livre que dans la série. Mais c'est pas forcément que l'univers lovecraftien. C'est l'idée du fantastique et de la peur qui est réinvestie par des auteurs de la diaspora africaine récemment, avec, pour certains, justement, quelque chose qui va aller plus loin, qui va proposer autre chose, et sur d'autres, quelque chose qui est pas beaucoup mieux que les ressorts sur lesquels joue justement Lovecraft. Mmh. Et je pense notamment à la série Zem, qui est une série Prime de Amazon, où finalement, alors c'est l'histoire d'une famille qui débarque à Compton, qui est à l'époque dans les années 60, et un quartier blanc en fait, avant qu'il devienne le quartier qui a été popularisé, en tout cas pour nous, par le rap, etc. Donc on est dans cette ambiance années 60, mais hyper fétichisée, avec une esthétique de l'image hyper léchée. On a l'impression d'être dans Ken et Barbie. Enfin, je veux dire, tout est si propre, si beau, etc.
Suburbans, américain.
Américain, mais aussi avec un jeu sur la couleur des images, il y a des couleurs pétantes. Enfin, c'est vraiment trop, quoi. Voilà. Donc, fétiche, vraiment fétichisée, cette ambiance des années 60. Et donc, cette famille débarque dans ce quartier de Compton, vient s'installer et fait face à l'hostilité de ses voisins qui voient tout de suite la fin de leur univers avec l'arrivée de ces étrangers, donc ces Noirs qui viennent du Sud et qui viennent s'installer à L.A. Et ce qui, moi, m'a posé pas mal de problèmes, c'est qu'ensuite, à partir de ce plot de départ, on va aller vers un film, enfin vers une série fantastique avec plusieurs couches sur lesquelles je vais pas forcément m'étaler, mais plusieurs couches qui, en fait, vont convoquer les cauchemars de l'Amérique, le Ku Klux Klan, on a les croix dans le jardin, etc. Mais aussi d'autres mythologies plutôt du sud des États-Unis. Mais ce qui est gênant pour moi dans Them, c'est que quelque part, ces ressorts de la peur sont presque trop prévisibles, presque trop évidents. Et finalement, ce que je me demande, c'est pour ça que la question de la réception, savoir à qui on parle et de quel autre on parle, me travaille autour de ces différents films et séries récentes, c'est savoir à qui s'adresse ce Them. Parce que ils viennent titiller finalement plutôt l'Amérique blanche dans ses paradoxes plutôt que d'essayer de venir me faire peur à moi, puisque c'est quelque part mes angoisses habituelles.
Ouais. ça change pas
grand chose, hein. Ouais. Et donc ça, je trouve que là c'est pas si intéressant, ça, là où je trouve que une œuvre comme His House de Rémi Wicks, qui raconte l'histoire d'un couple de migrants qui on ne sait pas trop comment au début de l'histoire arrive en Angleterre et est relogé parce qu'ils accèdent au statut de réfugié. Et puis, voilà, ils se retrouvent dans cette maison, d'une maison populaire anglaise, dans un quartier populaire anglais. Mmh. Et il va commencer à avoir des manifestations de maisons hantées. Donc, c'est vraiment le thème de la maison hantée, là, qui est aussi présent dans Them. Hein. Il va y avoir des manifestations diverses, mais qui vont jouer plutôt que sur... ce qu'on peut imaginer étant une réaction raciste en Angleterre, etc., sur des peurs déjà typiques, on va dire. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que en termes de réception et de projection, mais aussi en termes de récit, c'est que les ressorts vont être différents, puisque là, c'est la culpabilité du survivant, notamment, qui va servir de ressort à cette peur, puisqu'on va découvrir au fur et à mesure comment ils ont réussi à arriver là et quels sont en fait les fantômes qui les hantent. Il y a des choses autour du stress post-traumatique, voilà. Et là, on parle vraiment d'un autre, mais d'une manière intéressante, je trouve. Pas juste de manière stéréotypée, répondant à des clichés de l'histoire telle qu'on la connaît. Donc voilà, moi là, je trouve qu'il y a quelque chose de plus intéressant. Et alors, peut-être une dernière œuvre que je pourrais évoquer qui nous amène sur des pistes autres à partir là de l'univers de Lovecraft, c'est La Ballade de Black Tom de Victor Laval, qui est paru chez Belial. Donc c'est une novellasse. Ce qui est intéressant chez Laval, c'est qu'il va repartir d'un récit de Lovecraft directement qui s'appelle Horreur à Red Hook. Et il va raconter l'histoire du point de vue d'un personnage noir qui est déjà présent dans l'œuvre de départ. Et là, je trouve que dans d'un ouvrage comme celui-ci, il y a quelque chose qui va pas faire que répéter les angoisses et ce qu'on appelle le martyr porn, c'est-à-dire le fait de reproduire à l'écran des images de violences policières sur les personnes afrodescendantes ou de lynchage, etc., etc., qui sont d'une certaine manière assez présents dans...
Très présents, hein.
Ouais, très présents, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi dans le cinéma. Et là, quelque part, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de la réinvention de l'imaginaire, ce qui me fait penser à la façon dont Chantal Akerman avait traité dans son film Sud, le lynchage d'un homme noir, sans jamais rien montrer de ce qu'il avait vécu. En fait, le film, c'est un long travelling sur la route où elle fait des stops à des endroits où il s'est passé quelque chose pendant cette horrible nuit qu'a traversé cet homme. Et jamais, jamais, on ne voit une image de violence sur cette personne. Et voilà, là, il y a quelque chose que je trouve intéressant en termes de construction d'imaginaire, plus que dans Them ou même dans Lovecraft Country, qui finalement vont... La question, c'est de se demander à qui ça s'adresse. Qui a envie de voir des lynchages et des croix brûlées, en fait.
Et puis aussi, dans quelle mesure ces images qu'on utilise sempiternellement ne vont pas avoir une conséquence aussi sur des actions concrètes, c'est-à-dire que le fait de montrer en permanence, par exemple, des personnes de couleur se faire passer à tabac, Ben, on peut se demander dans quelle mesure ça ne va pas, comment dire, influencer, on va dire, notre rapport aussi aux personnes de couleur ou.
Oui, c'est effectivement la question qui se pose. C'est pour ça que je parle aussi de la question de la réception et de la transformation. Et ce qui m'intéresse, enfin, dans les auteurs qui investissent le fantastique, la science-fiction, l'horreur, c'est justement qu'est-ce qui va permettre de produire d'autres images, y compris des images de peur, y compris des images de peur qui va voilà, qui vont, qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir d'autres formes d'imaginaire, et y compris dans la peur. Quelque part, le Candyman de Clive Barker, je le trouve plus intéressant. Quelque part, c'est un film donc, des années 80-90, qui se passe à Chicago, avec Candyman qui est un personnage noir qui vient, qui est un tueur, etc. Mais là, il y a quelque chose qui est plus intéressant pour moi. Mais alors, on va dire, c'est Clive Barker, c'est quelqu'un d'autre. Mais voilà. En tout cas, autour de cette notion de l'autre, de l'horreur, comment construire de l'horreur qui aille un peu plus loin que cette exposition toujours des mêmes sévices d'un côté, et de l'autre, on va dire, est une forme de réification de thématiques ancrées profondément, notamment à travers la vision de Lovecraft dans le fantastique, qui est l'autre fait peur, l'autre c'est le danger, etc. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a des possibilités de le faire, tout en ne montrant pas, pas dans ces martyrs porn. Je pense par exemple Midsommar. En fait, le Midsommar, c'est cette communauté suédoise fermée sur elle. Et dedans, en fait, les autres sont aussi éjectés directement, notamment les personnages de couleur. Mais on ne voit pas leur martyr. Parce qu'en fait, c'est pas ce qui intéresse. Finalement, c'est ce qui intéresse, c'est de savoir comment cette communauté horrible, dans laquelle il se passe des trucs qui font peur, va se justifier, en fait, d'une certaine manière, va se construire. Pourquoi elle les a fait tous venir, quoi, finalement. Hein. Ouais. Voilà. Donc, finalement, ce qui apparaît en tout cas dans Zem, quelque part aussi en Lovecraft Country, c'est qu'il n'est pas si évident, à partir d'une lecture sélective, d'arriver à avoir une analyse qui ne soit pas justement sélective, qui ne mette pas de côté des choses qui sont importantes et qui contribuent à construire le regard dominant et à le reproduire, en fait. Parce que quelque part, cette série Amazon, elle, malgré la bonne volonté des réalisateurs, qui sont noirs, avec une équipe aussi multiple que les États-Unis aujourd'hui, n'arrive pas à sortir de ce regard dominant, de ce regard blanc, de ce regard wasp dans leur série de peur. Et finalement, c'est assez difficile d'en sortir. Et donc, le problème de la lecture sélective, je pense, c'est justement qu'elle ne va pas au-delà. Et quelque part, une fois incarner cette position du lecteur situé, je crois qu'il faut vraiment essayer de construire d'autres regards, d'autres discours pour pouvoir produire d'autres histoires, et qu'on n'y est pas tout à fait encore maintenant, même s'il y a de belles tentatives, notamment, je pense, à tous ces auteurs comme Octavia Butler, etc., mais qui font de la science-fiction, qui font pas de l'horreur.
Oui. Peggy, merci beaucoup.
Merci à toi de m'avoir invité.
Avec grand plaisir. Peut-être un deuxième épisode bientôt, parce que là, il y a énormément de matière qui a été brassée. Il y a de quoi faire largement un deuxième épisode.
Dire que c'est une introduction, c'est
oui,
ça?
Oui, voilà, c'est ça. C'est une longue introduction vers quelque chose de plus développé la fois prochaine. Je rappelle donc que tu fais partie de l'équipe de La Vie électrique, donc, qui est une émission qui porte spécifiquement donc, sur les thématiques, les imaginaires de la science-fiction, qui est diffusée, je crois que c'est tous les premiers samedis du mois, donc sur Radio Panique, et que l'on peut retrouver bien évidemment sur le site internet de Radio Panique en podcast. Merci à toutes et tous pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt sur le SoundCloud de l'ISELP.
Vous écoutez toujours La Vie électrique, et vous venez d'entendre donc ce podcast invité Écho du futur, les autres épisodes sur le SoundCloud de l'ISELP. Le mois prochain, dans La Vie électrique, on revient à une activité normale, et nous serons donc en équipe pour commander diverses choses. Notamment, peut-être, par exemple, le film Titane, dont on vous dit quand même d'aller le voir tant qu'il est à l'affiche, puisque dans un mois, rien n'est moins sûr. Et sans doute aussi un petit dossier de Jeff Vandermeer. Tout ça, c'est ce qui est prévu à l'heure actuelle. Donc peut-être que d'ici un mois, tout aura changé. Mais en tout cas, on espère vous retrouver au rendez-vous. Bonne journée à toutes et à tous. À bientôt!